Voilà, exactement. Alors reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 178. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins et même d'actualité. Non, je sais pas. Pour ce faire, j'ai mon camarade Benjamin François, alias Quix, alias at After Eight sur Twitter.
At After Eight FR.
FR sur Twitter, oui. Mm-hmm. Comment vas-tu, Benji?
Bah écoute, ça va. Enfin, je suis surtout at Quix, at mastodon.social, hein, si on peut vraiment vrai. Parler à moi. Écoute, ça va? Tu veux parler d'actualité? Tu veux parler de Michel Barnier? Je te sens chaud, là. Je te sens motivé.
Écoute, je pense qu'on devrait quand même consacrer tout cet épisode intégralement à Michel Barnier.
Michel Barnier. Faut savoir qu'au moment où on enregistre, on n'a pas encore de gouvernement.
C'est en général un point actu qu'on fait en général dans Super Ciné Battle.
Ouais.
Puisque dans le dernier Super Ciné Battle, on se disait, bon, écoute, on peut pas enregistrer tant qu'on n'a pas un chef de gouvernement.
Pour ancrer l'épisode dans le temps.
Ouais, mais du coup, on n'a pas attendu qu'il soit nommé parce que sinon, c'est cette espèce de parodie de démocratie continue. Et finalement, il en a nommé un et on a enregistré entre le moment où il y a le Premier ministre, mais il n'y a pas encore de gouvernement.
Ouais.
Et c'est les mots de Stéphane, hein, je les paraphrase. C'est un teaser de ce que vous aurez dans le prochain Super Ciné Battle, qui est déjà en cours de montage, hein, je préviens les gens. Il m'a dit, c'est la meilleure rentrée qu'ils aient jamais eue. C'est en n'ayant pas de...
en n'ayant pas de ministre.
C'est en n'ayant pas de ministre. Tu sais quoi, ça s'est passé très calme comparé aux autres années.
Bah, tant mieux, écoute.
Donc, alors toi, qu'est-ce que... Michel Barnier, qu'est-ce que ça te fait?
Je t'avoue que je me sens un petit peu éloigné de tout ça en ce moment-là.
Mm-hmm.
Moi, je suis un petit peu plus la campagne de la présidentielle américaine, si tu veux. Puisque il faut que tu le saches, Daniel.
Ouais.
Les immigrés mangent les chiens, ils mangent les chats, ils mangent les animaux de compagnie.
J'ai vu ça, mais comment tu peux croire ce genre de truc? Comment tu peux...
Ben, j'arrive pas à savoir si il y croit, et dans ce cas-là, il est vraiment profondément teubé, ou s'il sait que c'est du pipeau, mais il y va quand même parce qu'il sait que ses électeurs vont y croire. C'est difficile à établir.
C'est l'éducatisme, hein, c'est aussi possible.
Oui, mais c'est possible qu'il soit, oui, tellement, disons qu'il a le cerveau un petit peu troué à l'heure actuelle. Donc, écoute, on en est là.
D'accord.
Mais sinon, si tu veux, on peut parler juste de météo. Je revis. Je revis okay, parce qu'on a perdu presque 20 degrés Celsius depuis la semaine dernière.
C'est vrai.
C'est-à-dire que la semaine dernière, c'est monté jusqu'à du 45 degrés Celsius. Température ressentie 47.
D'accord.
Et là, en ce moment, tout de suite, il fait 24. Donc là, c'est bien. Là, c'est très, très bien.
J'ai reçu un message à l'instant qui me dit, écoute, à Tokyo, aujourd'hui, il a fait 35 degrés et on y va la semaine prochaine avec les camarades de Sumimasen. Donc, je pense qu'on...
Et 35 degrés à Tokyo avec l'humidité, c'est autre chose que 45 ici. Hein.
Oui, je pense. C'est particulier. C'est vraiment une épreuve de force. Hein. C'est vraiment...
À mon avis, 35 à Tokyo, c'est plus dur que 45 ici à Los Angeles. Mais bon, écoute...
Mais je croise les doigts que ça descende un peu, mais qu'on ait quand même beau temps parce que l'année dernière, c'était un peu le déluge.
C'est tout le mal que je vous souhaite. Parce que oui, la seule fois où je suis allé au Japon, c'était à cette période. Et on a vu de la pluie tous les jours.
Ouais, c'est une période de typhon, mais je sais pas pourquoi ces dernières années, s'il y avait du beau temps, et là, depuis quelques années. Et en parlant de beau temps, il faut que je te raconte une petite anecdote, Benji. Je me suis bien gardé de te la raconter pendant cette semaine.
Ouais.
Jeudi, je reçois un message d'un parent d'élève. Sa fille est dans la même classe que mon fils. Voilà.
D'accord. Donc, un collègue parent d'élève.
Collègue parent d'élève et nos enfants s'entendent bien. C'est une des copines c'est une des copines de mon fils.
D'accord.
Et là, il me dit, écoute, je dois faire un vol en hélicoptère. Je dois ramener un engin d'un point à un autre. Il doit ramener un engin à Paris. Il m'a dit, est-ce que tu veux? Et j'ai dit banco avant qu'il ait le temps, j'ai dit oui.
Est-ce que tu veux garder ma fille parce que sa mère est pas là et t'as dit oui, bon.
Non. Et du coup, je me retrouve dans un train. Alors, j'annule ma séance de sport qui était prévue pour le lendemain matin et à la place, je prends un billet de train pour Montbéliard.
D'accord.
Et donc, je vais jusqu'à Montbéliard. Je savais pas très bien situer Montbéliard sur une carte. Ma compagne est beaucoup plus douée pour ça parce que l'Est, nest français, elle maîtrise. Elle
ah, c'est ça, c'est son chez elle.
Bah, elle a ça dans le son. Et du coup, je me retrouve à Montbéliard et alors je vois passer des...
Okay. Montbéliard qui donc n'est pas juste à côté de Paris, hein. Faut le préciser pour les gens qui sont aussi doués.
Non, c'est plutôt loin.
C'est plutôt à la frontière suisse, quoi.
Ouais, plutôt. Mm. Et donc, on voit passer le décor, il y a un peu le flip parce que dans le train, on voit quand même du brouillard un peu londonien, tu vois. On se dit, putain, quel temps ça va, parce qu'il y a un temps, il vaut mieux pas décoller. Et du coup, on arrive et puis il y a une éclaircie qui se fait. Et là, bah, ça y est, on est parti, on décolle avec une escale à Auxerre puisque il faut faire le plein de kérosène. Mmh. Et c'était super. C'était le kiff. Alors, j'adore voler en hélicoptère. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. J'ai un ami qui m'a envoyé un SMS en me disant, essaye de pas remplir les pages faits divers, parce que.
Oui, bah oui.
Lui, il aurait les moyens de voler en hélicoptère tout le temps, mais par contre, tu sais, il est traumatisé par Kobe Bryant et tout ça, et pour lui, c'est la mort des riches, tu vois. C'est
bah oui. Il y a un moyen très simple de ne pas mourir en hélicoptère, c'est d'être pauvre.
Oui, ça.
Ou alors t'as pas de chance, l'hélicoptère te tombe dessus alors que t'étais pas dedans, mais oui.
Ou alors c'est un hélicoptère de secours. C'est
oui.
Le SAMU.
Ah oui, oui.
C'est ce genre d'hélicoptère. Et là, t'as vraiment pas de chance parce que c'est pas de bol.
C'est la double peine, oui.
Heureusement, tout s'est super bien passé. Le pilote émérite a mené sa mission à bien.
Mais donc, t'as volé de Montbéliard à Paris en hélico?
Ouais, c'est mortel. Ah,
ouais, c'est pas un petit trajet quand même.
Non, c'est le plus long trajet que j'ai jamais fait. Pour l'instant, j'avais fait plusieurs trajets assez longs, dont je crois aux États-Unis une fois un trajet qui a duré assez longtemps. Et surtout, c'était un vrai tutotal, quoi. C'est vraiment, il m'expliquait tous les trucs. Là, c'est bidule, là, c'est le machin. Il était très pédagogue. Et c'était passionnant, en fait, de faire ça. En sachant qu'en plus, ma seule place que j'ai payée, c'est à la SNCF, tu vois. Normalement, je connais faut savoir la valeur en kérosène et sans parler de la location d'un appareil qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Imagine-toi les prix que ça doit coûter, quoi. Mmh. Et c'est pas le moyen de locomotion le plus économique en énergie et tout ça, mais c'est un...
Ni le plus écolo, hein, disons-le.
Ni le plus écolo, mais c'est un moyen de transport indispensable parce que, par exemple, pour la surveillance, la photographie aérienne, mmh. le simplement, toi, tu y es à Los Angeles pour le trafic. Enfin, il y a plein de manières. L'hélicoptère et
bah sans parler le SAMU, les secours, tout ça.
Les secours, les secours, la police. Enfin, tous ces jeux. Enfin, on a tous vu la police avec ses flashlights. Rends-toi, tu es cerné avec des flashlights.
Ah bah ça. Oui, lors des poursuites de nuit en voiture, oui. L'hélicoptère qui poursuit avec le gros spot lumineux sur le fuyard.
Mais j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Alors évidemment, il y a toujours une petite appréhension. Moi, j'ai toujours, depuis que je suis père, il y a toujours un moment où je me dis, si je fais un truc qui est un peu en dehors de la norme, dont j'avais pas besoin, tu vois, j'avais pas un besoin nécessaire, tu vois. Genre, bon, je suis dans l'avion, j'ai besoin d'aller dans l'avion en général pour aller au point d'arrivée, mais quand c'est un truc en dehors du truc, je me dis, qu'est-ce que je fous là?
Genre, voilà. Ah bah oui.
Est-ce que je devrais pas et tout ça, tu vois, genre, et en fait, l'appréhension passe parce que c'est vrai que un hélicoptère, ça peut secouer, tu vois. Et du coup, il m'expliquait pourquoi ça secoue. Et c'est assez rassurant d'avoir quelqu'un qui t'explique pourquoi il y a des variations, en fait. C'est des variations de température. Si tu survoles une forêt, par exemple, ça va un peu plus remuer.
C'est comme les turbulences dans un avion, en fait.
Exactement.
Pense.
Et d'ailleurs, je l'avais recommandé dans un des tout premiers After Eight, si tu te souviens. C'était Cockpit Confidentiel. C'est un bouquin qui existe, je crois, qu'en anglais. Et qui est écrit par un pilote et qui explique le pilotage, mais aussi le fonctionnement d'un avion et aussi le fonctionnement presque social d'un avion. Et il t'explique aussi que les fameuses turbulences, en fait, c'est des variations. Tu as l'impression que c'est des centaines de mètres, mais en fait, c'est plutôt un mètre. C'est des toutes petites variations et qu'en fait, ils n'ont pas zéro impact. Voilà. C'est des trucs qui te rassurent. Et quand tu parles posément avec un expert, en fait, ou qui t'explique, ou que tu lis posément un expert. Tout d'un coup, pour moi, ça a un sens. J'ai pas de peur, tu vois, sur lequel j'ai pas de contrôle, quoi. Si j'ai pas de contrôle, voilà. Mais il y a toujours un petit truc de, qu'est-ce que je fous là?
Ouais.
Et en même temps, une fois que t'es dans les airs, putain, qu'est-ce que c'est beau. qu'est-ce que c'est beau, en particulier la France, quoi. C'est genre, il y a des châteaux cachés dans les forêts. Il y a, genre, parfois, il y a des moments où tu regardes, parce que plus tu reviens de Montbéliard et jusqu'à Auxerre, tu vois parfois, sur un panorama, tu vois cinq châteaux, et des abbayes, et des églises magnifiques, vues d'en haut, en tout cas. Vraiment, c'est assez enivrant, et puis c'est pas un plat pays.
Puis surtout toi qui es fan de randonnée d'urbex, t'as peut-être envie de te poser et de te dire allez, vas-y, on se pose, on va voir.
Ouais, mais surtout de survoler Fontainebleau en disant tu sais qu'un jour j'ai marché de Paris à Fontainebleau. Et ça a pris vachement plus de temps que ce qu'on fait. Mais bref, j'ai kiffé, voilà. Si vous êtes pilote d'hélicoptère et que, non, bah, en tout cas, je lui ai dit anytime pour une nouvelle fois. Mais c'était vraiment j'étais fou de joie. Vraiment, j'étais heureux, quoi.
Ben, voilà. Tu vois, je n'ai jamais de ma vie volé en hélicoptère, voilà, j'avoue. Mais ce petit moment d'appréhension où tu te demandes qu'est-ce que je fous là, je l'ai vécu dans je sais pas si c'était une moindre mesure, mais en tout cas, c'était pendant un très court instant, le jour où j'ai fait du saut à l'élastique. Et c'est-à-dire qu'au moment où tu te jettes, entre le moment où tu te jettes et le moment où l'élastique te tire en arrière, t'es vraiment en chute libre avec rien qui te retient. Et c'est toujours ce que j'explique quand je parle du saut à l'élastique, c'est que tu vois, par exemple, tu peux faire des montagnes russes.
Pourquoi je fais ça?
Voilà. Tu peux faire des montagnes russes, mais quand t'es dans les montagnes russes, même quand le truc il tombe quasiment à la verticale, tu sais que t'es retenu, t'es accroché au siège, il y a quand même un truc qui te retient. Saut à l'élastique, quand tu tombes, tu n'es retenu à rien et t'es tellement proche du sol que tu le vois arriver à une vitesse mais vraiment phénoménale. Et là, tu te demandes, pourquoi je suis là déjà, en fait? Tu vois, et j'ai aussi fait du saut en parachute. Et le saut en parachute a ce côté un peu irréel que tu pars de tellement loin qu'en fait, tu vois pas le sol se rapprocher à grande vitesse. Tu sais que t'es dans l'air, mais il y a un côté un peu irréel. T'as pas ce sentiment d'urgence de quand tu sautes à l'élastique et là, vraiment, vraiment, tu vois le sol se rapprocher très, très, très vite. Et ouais, l'espace de une seconde, tu te dis, oh putain, mais quel choix ai-je fait dans ma vie pour que je me retrouve à cet endroit, à ce moment précis?
C'est marrant, j'ai parfois ce sentiment de frayeur pour des trucs tout bêtes, hein, genre la tyrolienne, genre. J'étais en train de tyrolienne, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là?
Ouais, bah au moment où tu te jettes, la tyrolienne, c'est pareil. Hein.
Est-ce que je devrais pas être plutôt au sol à faire des ricochets dans la flotte?
Enfin, genre, ouais. Voilà.
Donc oui, mais par contre, non, mais je suis très rassuré, j'ai pas le... Il était content parce que je suis pas malade, j'ai pas d'angoisse, tout ça. Enfin, je m'inspire du mec sur le pont des espions. Le mec, il dit, vous stressez pas? Il fait non. Et il fait pourquoi? Et il fait, est-ce que ça aiderait? Et le mec, il fait non. Et il fait, bah voilà. J'essaie de pas stresser dans ces moments-là. Est-ce que toi, je sais que, on va crever la pierre, on va pas parler d'Alien Romulus.
Bon, on a déjà assez parlé la dernière fois. C'est bon.
Est-ce que t'as vu un autre film?
Oui, j'ai vu un film dont j'attendais vraiment rien parce que je dois t'avouer que la bonne annonce me l'a pas très bien vendu. Et aussi parce que je croyais pas vraiment au truc.
Ah, j'allais dire une bêtise, mais non, vas-y.
C'est Beetlejuice.
Venom 3.
Non, il est pas sorti encore. Mais non, c'est Beetlejuice, donc la suite du célèbre film de Tim Burton qui a plus ou moins lancé sa carrière, il me semble. C'est son premier long métrage, si je ne m'abuse. J'espère que je dis pas une connerie, mais je fais confiance aux gens dans les commentaires pour me corriger si c'est le cas. Et donc, qui avait quand même un peu tout du projet casse-gueule, parce que faire une suite 35 ans après le premier film, alors certes, ça a marché pour Top Gun Maverick, mais disons que ça marche pas forcément magiquement pour tous les films. Et puis que Tim Burton, y a quand même pour beaucoup, sa carrière est derrière lui, quoi. Globalement, quasiment tout ce qu'il a sorti depuis 20 ans, c'est quand même soit des ressucés de trucs qu'il a déjà fait en moins bien, soit c'est genre complètement oubliable ou complètement nul.
Soit c'est nul, oui, simplement.
Voilà, donc j'avoue que j'y suis allé en n'y croyant vraiment pas. Et à ma grande surprise, bah, j'ai bien aimé, en fait. J'ai passé un bon moment. Tu sens que tout le monde est content d'être là. Et je trouve que c'est un film, alors avant qu'on spoil, je vais quand même dire, je trouve que c'est un film...
Il va spoiler, moi bon après je m'en fiche, moi tu peux...
Bon, on préviendra quand on va spoiler, mais je trouve, à ma grande surprise, que pour une suite qui sort 35 ans après, c'est pas un cash grab, c'est pas l'argent facile qui les a attirés, et je trouve que c'est fait sans cynisme, que vraiment les gens ont envie d'être là, ils sont contents d'être là et qu'ils croient dans ce qu'ils font et que il y a des tas de bonnes idées. Alors, je vais pas survendre le film, c'est pas le meilleur blockbuster qu'on aura vu cette année, il sera pas premier au classement des blockbusters, je pense. Mais honnêtement, je m'attendais vraiment à en sortir déçu. Et en fait, non, j'étais plutôt content. Alors, je sais pas toi ce que t'en as pensé.
Mais je l'ai pas vu, moi. Ah,
tu l'as pas vu?
Non, je suis.
Je pensais que tu l'avais vu.
Non.
Donc
non,
effectivement, s'il y a quelqu'un qui spoil, c'est moi.
J'ai pas une énorme attache à Beetlejuice dans le sens où j'aime bien le premier film. Je l'ai revu il y a pas si longtemps et je trouve très efficace ce premier film.
Ouais.
Alors que Beetlejuice, justement, on le voit que 10 minutes à tout casser dans le premier film.
Ouais, il est pas très présent et on le voit pas beaucoup plus dans le deuxième film. Hein. Si c'était une inquiétude, c'est pas le Michael Keaton Show. Ils ont compris que ce qui fonctionnait dans le premier, c'était que Beetlejuice soit là pas tout le temps. Et ouais, c'est pareil là.
Ce que j'ai entendu par contre, c'est que, enfin, c'est que c'est plus le Monica Bellucci Show.
Non, pas du tout en fait.
Ah, moi, on m'a dit qu'elle est très mise en valeur.
Alors, elle est mise en valeur parce que Monica Bellucci et que Monica Bellucci en espèce de mix entre Morticia Adams et Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Elle crève l'écran à chaque fois qu'elle est à l'image. Mais Monica Bellucci, honnêtement, est-ce que c'est spoilé que dire qu'elle a 5 minutes à l'écran, quoi? Globalement.
Non, mais après c'est Beetlejuice, hein.
C'est Beetlejuice.
Ils ont 5 minutes à l'écran, techniquement.
Mais je trouve qu'il y a. Alors. Il y a énormément d'intrigues et c'est là où le film est complètement foutraque. Et ce qui, je trouve, fonctionne pour un film Beetlejuice, c'est que t'as l'impression que la principale intrigue, ça va être donc le personnage de Monica Bellucci qui essaye de retrouver Beetlejuice. Alors, je vais spoiler un petit peu. C'est l'ex-femme de Beetlejuice, Monica Bellucci, dans le film, et elle essaye de le retrouver pour se venger de lui parce que c'est à cause de lui, si elle s'est retrouvée. En fait, il la découpe en morceaux, et ça, tu le sais dès le début. Dès sa première apparition, Monica Bellucci, elle se reconstitue d'elle-même en retrouvant ses morceaux dans diverses caisses. Mais en fait, ce n'est vraiment qu'une sous-intrigue, et il y en a plusieurs. Et ça donne au film à côté un peu foutraque, et je trouve qu'il fonctionne vraiment pour ce Beetlejuice. Il y a plusieurs personnages du premier film qui reviennent, et... une des questions qu'on pouvait se poser, c'était comment ils allaient gérer le personnage du père de Lydia. Donc Lydia, c'est Winona Ryder, dont l'acteur a eu quelques problèmes avec la justice pour des cas de, je crois, d'exhibition sexuelle. Enfin, globalement, il a eu des soucis. Hein. Il est inscrit sur le registre des prédateurs sexuels aux États-Unis. Et en fait, quand tu vois le personnage, il est dans une scène d'animation et ensuite, il a pas de tête. Donc c'est fait de manière plutôt maligne et moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a énormément de recours à des effets spéciaux en dur. Il y a pas tellement de CGI, il y a le peu de CGI qu'il y a est globalement assez laid. C'est probablement fait exprès. Il y a aussi de la stop motion. Donc globalement en fait ça rappelle vraiment le premier film parce que le premier film il était fait à la débrouille. Hein. La raison pour laquelle les effets spéciaux ont cette gueule là dans le premier film, c'est parce qu'ils avaient pas de thunes. Et là, c'est fait. Alors évidemment, là, je pense qu'ils avaient beaucoup plus de thunes s'ils avaient voulu, mais il y a une volonté de refaire des effets spéciaux en dur, de refaire de la stop motion qui a l'air un peu fauché pour respecter un peu le côté visuel du premier film. Et donc, ouais, non, vraiment, j'ai passé un bon moment. Les références au premier film sont là, mais sont pas indispensables. Même si tu l'as pas vu, le premier film, tu peux voir celui-là. Et moi, je dois t'avouer que le premier film Beetlejuice, je l'ai vu il y a pas si longtemps, en fait.
D'accord.
Je savais qu'il existait, mais je ne l'avais pas vu. J'étais beaucoup plus familier de la série animée Beetlejuice.
Ok, c'est une manière de rentrer dedans, mais ok.
Ouais. Et la série animée Beetlejuice, qui pour le coup était... un peu moins fidèle au premier film parce que Beetlejuice était plus un sidekick de Lydia dans la série animée qu'il ne l'est là dans les deux films, quoi. Là, dans le deuxième film, tu vois que Lydia, elle est traumatisée par Beetlejuice et que c'est vraiment un mauvais souvenir de son passé dont elle aimerait, qu'elle aimerait oublier, quoi.
Et ok, alors tu... Ah, mais il est dans le classement des blockbusters.
Il est dans le classement des blockbusters, donc il va falloir que tu le vois.
Il va falloir que j'y aille.
Et il n'est pas impossible qu'il monte un peu. Moi, je pense que on verra ce que vous allez en penser, mais pour moi, c'était vraiment un bon moment, quoi. J'ai pas regretté mon moment et comme je disais, je pense que c'est une suite qui est faite sans cynisme, qu'ils ont attendu de vraiment avoir le bon projet, la bonne histoire, parce que c'est un truc, ça fait presque 10 ans hein, qu'ils essaient de la faire, cette suite. Peut-être même plus, hein. Il me semble que dès la sortie du premier, le studio voulait une suite et que c'est Tim Burton qui était pas chaud, quoi. Donc voilà, non, honnêtement, moi, je recommande. C'était un agréable moment, alors qu'à la base, on y allait surtout pour profiter de la clim dans le ciné parce qu'il faisait chaud dehors. Quoi.
Je rappelle que Beetlejuice est entre Transformers, le commencement, et SOS Fantôme, la menace de glace.
Moi, je pense qu'il va monter, tu vois, Beetlejuice.
Et Axel Foley.
Axel Foley qui était aussi une bonne surprise au final.
Ouais, on n'a pas des goûts identiques de Stéphane, parce que Stéphane, lui, il a chié sur Axel Foley. Il a chié sur Twisters aussi, qu'on attendait aussi.
Ah ouais, bah, j'ai bien aimé Twisters, tu vois.
Mais écoute, c'est ton côté américain, j'ai envie de dire.
C'est ton
côté redneck, si tu me permets.
Ouais, alors mon côté redneck m'a quand même fait regarder la Director's Cut de Rebel Moon Partie 1. Ne serait-ce que pour comparer avec le premier film. Et je dois t'avouer que, à part la scène de cul complètement inutile et l'aide des 15 premières minutes, j'ai pas beaucoup vu tant de différence au final. Hein.
C'est horrible. Mais nous, on l'a vu avec Jérôme, on s'est armé de courage, hein, et on l'a tout regardé d'un coup.
J'ai toujours pas vu la partie 2, je t'avoue, je suis pas super chaud, quoi.
C'est catastrophique.
En fait, j'espérais un peu que la Director's Cut donnerait un peu plus de sens à cette fusillade finale. Mais non, c'est toujours aussi idiot, en fait. Ça n'a toujours aucun sens.
Ah, la fusillade de la prise d'otage et tout ça.
Bah, quand ils sont tous prisonniers et que d'un coup, ils sont tous libres et que leurs complices ont tous leurs armes. Enfin, tu vois, c'est... Non, ça n'a aucun sens.
Si ce n'était que ça, le problème, mais voilà.
Ah oui, mais ça, c'est vraiment le clou final.
Est-ce qu'on le rajouterait pas dans la liste des blockbusters, quand même, pour dire
il y est.
Il y est ?
Bah, il me semble bien que Rebel Moon, il y est.
Non, mais en Director's Cut, je crois pas.
Ah, en Director's Cut, peut-être pas, non.
Je pense qu'on... rajoutons-le discrètement.
Stéphane Boulet, il ne saura pas, il écoute pas nos podcasts.
En parlant de Stéphane Boulet, j'ai une actu concernant...
Est-ce qu'on a vraiment besoin ?
J'ai une actu... Stéphane Boulet se rendait à un mariage Paris. Et il m'a demandé ce service, il m'a demandé si on pouvait l'héberger. Et lui, sa compagne... Et
naturellement, tu as dit non.
Et son fils, si, j'ai dit oui. J'ai dit à une seule condition, que j'arrive à côté de toi à 2h du matin... Et qu'on regarde ensemble le film Kaizen.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, j'ai dit exprès le film Kaizen pour pas que tu devines si tu sais pas. Effectivement, tu ne sais pas.
Je sais pas du tout. Est-ce que c'est le titre international d'un film français?
Non, mais j'aime bien cette proposition. Est-ce que tu t'aurais un truc?
Oh putain, non, attends, je sais. Non, c'est le. Ok. C'est le film. De l'Everest de l'autre youtubeur là.
Oui, exactement. C'est le film de Inoxtag.
Inoxtag, c'est ça.
De Inoxtag, c'est un film documentaire donc.
Ah bah oui, vous qui adorez les films sur la montagne, vous avez dû passer un excellent moment.
Alors écoute, je l'ai vu. Là, je l'ai vu.
Ouais.
Et tu sais quoi? Je suis.
Est-ce que ça te redonne envie de poser ton téléphone portable?
Mais non, mais tu sais quoi? Oui, je vois, t'as vu les punchlines.
J'ai vu les tweets, oui.
T'as vu les punchlines? En plus, moi, j'en ai choisi un extrait juste au moment où j'ai un ami qui bitchait dessus. J'ai envoyé l'extrait pile devant moi, puis qui était devant moi où il disait, non, mais tu vois, je grimpe pour le plaisir, eux, ils grimpent pour vivre. Enfin, tu vois, genre, un truc, des phrases un peu toutes faites.
Oui, en gros, lui, il faisait ça pour les bonnes raisons, mais tous les autres gens qui font l'Everest, il les faisait pour les mauvaises raisons, quoi.
C'est dur à dire. Écoute, non, c'est pas dur à dire, mais je vais moduler le propos. En gros, le gamin, parce que je dis gamin affectueusement, il est très jeune quand même, il se dit, il se lance des défis, ça peut être passer sur une île déserte 7 jours, enfin, je sais plus quoi, enfin, il fait des défis comme ça, mais ça peut être des défis plus cons, hein, tu sais. Et un jour, il s'est lancé l'année dernière un défi de monter sur l'Everest, le plus haut sommet du monde. Alors, il y a un truc que Stéphane et moi on sait parce que on a quand même une relation particulière avec la montagne. Je dirais jamais de moi que je suis un montagnard parce que d'abord, un, je vis pas, et deux, je vois régulièrement des gens qui ont des milliers de sommets de plus que moi, tu vois. Moi, j'ai une passion pour ça et j'adore ça, mais jamais je me définirais comme un montagnard, tu vois. Je suis passionné par ça.
Ouais.
Mais et lui il se dit je vais faire le plus haut sommet et un truc qu'on sait Stéphane et moi c'est que il y a plein de sommets qui sont plus intéressants que c'est pas la hauteur qui fait le truc intéressant en fait.
Ouais.
C'est-à-dire si tu vas dans les Alpes ou dans les Pyrénées, il y a des sommets qui font parfois 2000 mètres. Et d'ailleurs tu regardes les sommets qui sont cotés en Californie ou les sommets qui sont cotés où tu veux aux États-Unis, c'est pas forcément la taille qui est le plus important. Il y a aussi l'approche, il y a aussi le côté, la beauté.
C'est la façon de s'en servir, je suis d'accord.
D'accord. C'est aussi la beauté de l'endroit. Il y a plein de choses qui rentrent en commun et qui rendent le sommet plus ou moins mythique. Mais en fait, il n'y a pas de sommet inintéressant. Il y a très peu de montagnes inintéressantes, en fait. Et lui, son objectif, c'est vraiment le plus haut sommet du monde. Mmh. Et d'ailleurs, il y a des plans où tu le vois derrière le sommet. C'est vraiment fait l'homme contre la nature et tout ça. Et dans l'absolu, je suis pas contre l'idée de... Parce que c'est quand même un truc assez positif de se dire « Ah, je vais me lancer un défi et tout ça. » Le seul truc, c'est qu'il y trouve une espèce de gélatine shonen. Je sais pas comment définir ça. Genre une espèce de bouillie shonen de « Ah, il faut se dépasser. Si tu te dépasses pas, t'es pas un homme. » Enfin, tu vois, un truc un peu mascu bizarre, quoi.
Bah, jusqu'au titre du film, non?
De quoi?
Bah, le titre du film, si t'appelles ton truc Kaizen, oui, c'est shonen déjà dans l'esprit, quoi.
Oui, c'est genre « Ah, il faut que ça soit... il faut qu'à chaque fois, tu sois... »
C'est le dépassement de soi, en gros.
Mmh. Oui, non, mais c'est un peu le dépassement de soi. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de passages où il regarde la montagne, le paysage et le visage grave, avec des phrases inspirationnelles, tu vois, c'est un peu ça. Mmh. C'est genre un truc de motivation. Moi, je suis ravi que les gens soient motivés par tout à coup, mais c'est juste l'envie de se balader, hein, pas forcément d'attaquer le Mont Blanc ou le Kilimandjaro. Il y a plein de montagnes. J'ai fait plein de montagnes avant de monter le Kilimandjaro, hein, tu vois. Plein, ça dépend, tu vois, il y a des montagnards, c'est leur métier, tu vois, ils en ont fait plein. Écoute, je trouve que la démarche est pas inintéressante, mais alors le film, il est de pompeuserie. Mmh. C'est assez déroutant de naïveté, et surtout je trouve que le narratif du personnage est pas très intéressant, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est un jeune qui est sympa. En vrai, je vois pas d'autres aspérités, je vois pas d'autres trucs intéressants à dire sur ce gamin, à part qu'il a l'air très sympa. Et voilà, je crois que c'est vraiment, il y a rien d'autre, à part que les gens l'aiment parce qu'il est sur YouTube et qu'il fait des vidéos. Et il fait des vidéos Minecraft ou parce qu'il a une bonne énergie ou quoi que ce soit. Mais sinon, je vois pas de narratif intéressant. Il aime ses parents l'aiment. Tu vois, il y a pas de revanche sur la vie. Il y a pas de un truc qui donne un air de la guerre, genre une aspérité, un truc qui dit une vengeance. Je dis pas forcément qu'il faut qu'il monte sur un point de snipe pour se venger d'un point de quelqu'un, mais tu vois, c'est genre il y a pas de drive, en fait, dans son truc, à part le défi shonen, quoi.
Ouais, en gros, il a pas une vie si compliquée qui justifierait ce besoin de se dépasser, c'est ça?
Ouais. Ouais. En fait, il est arrivé à un très haut sommet dans son domaine, à savoir le YouTube game, et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire comme défi avec les moyens dont je dispose, c'est-à-dire beaucoup de moyens, parce qu'il est... Non seulement il est très riche, mais en plus il a énormément de moyens. Le truc est sponsorisé de partout. Tu vois, Nike.
Oui. Moi,
Nike,
j'ai vu une vidéo.
Fitness Park.
La Orange. Vidéo qui dit pose ton téléphone, sponsorisé par Orange. J'ai trouvé ça formidable.
Et en plus, il y a un truc, c'est que je trouve que tout l'aspect écologique, et quand je dis écologique, c'est pas forcément respecter la nature, mais simplement l'écosystème de l'endroit, c'est-à-dire l'aspect tu dépenses, j'inclus dans l'écologie l'être humain, et l'aspect tu dépenses 50 000 euros par personne. Mmh. Donc en plus avec les caméramans, les bidules, les machins,
les sherpas,
bah, je pense qu'ils sont inclus dans les 50 000, tu vois, mais ouais. Quand même. Mais voilà, donc il faut que tu payes pour tous les gens qui vont t'accompagner, parce que il y a le caméraman, le mec qui l'accompagne, le bidule, le machin. Genre, s'il n'y a pas juste un sherpa, il y a un mec qui l'accompagne tout le temps et qui le motive, quoi.
Ah bah, ça reste un truc de riche, oui.
D'accord. Et c'est jamais remis en cause vraiment. Surtout après les images qu'on voit de l'Everest, et on en a parlé souvent dans Super Ciné Battle de la catastrophe, en fait, que ça peut être sur l'Everest, alors que, il y a plein d'autres sommets qui font 1000 à 500 mètres de moins dans la région, en plus, hein, qui sont passionnants. Enfin, le K2, c'est 10 fois plus dangereux, hein, si c'est vraiment le danger shonen que tu cherches.
Bah, le K2 qui, il me semble, avec lequel il y a débat pour savoir si c'est pas plus haut que l'Everest, d'ailleurs.
Débat, mais oui. Et si un jour on lui dit, bah, écoute, finalement, c'était pas le plus haut, t'as l'air bien con. mais, Mais voilà, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le K2 a bien plus de mortalité. Alors, et en plus, il y a cette histoire de Sherpa. Alors, ils essayent, ils savaient qu'il fallait en parler et que parfois ils sont mentionnés et tout. Et que, oh, regarde, lui, il a perdu un doigt, lui, il a perdu l'usage, son doigt, l'autre, il résiste plus, tu vois, genre. Il essaye quand même de faire ça, mais c'est trop modeste par rapport à ce que ça devrait être d'un documentaire. Et le dernier, enfin, il y a plein de trucs à redire. Et le dernier point qui me semble vraiment important sur ce docu, c'était la réalisation. Et c'est d'un simple, l'histoire et la réalisation, c'est que, nous, les documentaires de montagne, on en a vu des vraiment, j'en ai vu beaucoup dans ma vie. Et des plus ou moins réussis, des plus ou moins historiques, ou des plus ou moins le défi, tout ça. Et ça, c'est vraiment le moins bien que j'ai vu, quoi.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a des effets en CG, il y a des zooms, mais il y a des trucs lunaires, quoi. Il y a des moments où c'est juste des training montage à la Rocky, quoi. Et juste, qui ont sans doute été faits en plus quand il est revenu, hein, tu vois, parce qu'ils ont pas dû le faire avant, ils ont dû faire, bon, il faut faire un training montage pour le sponsor, c'est Nike qui demande, et on voit bien le logo Nike, on voit bien le logo machin truc muche, où on le voit en s'entraîner à Fitness Park, ça clairement ça a été fait après, je mets ma main coupée qu'il y a vraiment plein de trucs qui ont été faits après son retour pour les sponsors, et du coup en fait la réalisation elle fait vraiment toc de Bourges, tu vois. C'est vraiment, c'est ce que tu peux attendre de version d'un mec qui se dit, ah, c'est ça, en fait, un bon clip de montagne. Et c'est souvent pas bien, en fait. Tu le vis pas vraiment. Mmh. Et en plus, tu connais dans Super Cine Battle, on a vraiment souvent parlé de documentaires qui sont intéressants. Il y a Free Solo, évidemment, tout le monde en parle, mais il y a Melou aussi. Il y en a plein d'autres. Il y a celui sur les Sherpas qui font tous les plus hauts sommets du monde en un an. Genre, c'est quasiment impossible. Ils le font. Et il y a plein de trucs de, il y a les documentaires d'accomplissement. Il y a les documentaires qui sont un peu plus techniques. Il y a les documentaires qui sont plus l'aspect humain. Et tous, ils sont plus intéressants que ça. C'est-à-dire, ils ont un truc à te raconter. Là, il y a vraiment pas grand-chose à te raconter. C'est-à-dire, c'est un gamin qui a décidé d'aller sur l'Everest et il a de l'argent pour le faire. Il a des sponsors pour l'aider et il le fait. Et je lui dis bravo, c'est super, mais je trouve pas ça ouf en termes de production, en termes de ce que ça nous raconte et ce que ça doit raconter. Et globalement, je suis plutôt content parce que les jeunes qui voient ça et tout ça, ils se disent « Ah, c'est comme croire en ses rêves et tout ça », mais c'est des banalités, quoi. Mmh. C'est vraiment pas ouf, en fait, si tu regardes... C'est pas un message vraiment simple parce que c'est pas un message qui se questionne sur lui-même, en fait.
Ouais.
Le seul moment où il se questionne, c'est dit « Ah, je suis malade, et quand est-ce que je vais rentrer ? Est-ce que je fais bien de faire ça ?» et tout, comme tout le monde, hein. Mais c'est pas ouf. Et ça dure 2h30 aussi.
Ouais, c'est long.
Bah 2h30 parce qu'il te montre le sommet qu'il fait avant et ça c'est assez intéressant de le voir s'entraîner. En plus en vidéo, on voit monter le Mont Blanc, mais il y a une phrase qui m'a traumatisé dans son montée de Mont Blanc qui était plutôt intéressante d'ailleurs. La vidéo, hein, c'est que il disait et j'ai compris à ce moment-là qu'on ne monte pas une montagne pour qu'on nous voit, mais pour qu'on voit le monde. Et tu vois, c'est que des trucs comme ça, quoi.
C'est ouais, d'accord. C'est des trucs de posters motivationnels, quoi.
C'est posters de motivation. C'est des gens qui regardent l'horizon et tout. Et c'est... J'ai l'impression que c'est très, très peu sincère, en fait.
Mmh.
C'est-à-dire, c'est genre... Ah, et tous ces gens l'accompagnent en le soutenant et tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens, il y a vraiment une grosse équipe. Et ils ont tous l'air adorables et tout, mais... J'ai l'impression que c'est genre, ah, c'est vraiment un truc qui est fait à, bah, pour l'ego, ils sont tous en train de dire, ah, t'es vraiment un mec bien. Mais on n'a jamais vu pourquoi t'es un mec bien. Enfin, genre, il est sympa. Il a l'air très sympa. Je suis sûr qu'il est adorable. Mais je sais rien. Tu sais, c'est un youtubeur. Mais faut toujours se méfier des youtubeurs, bah, t'en as pris.
Il me semble qu'il y avait eu un DOS où il avait appelé une nana au Mexique qu'il avait fait venir en France et que globalement, il l'avait un petit peu traité comme un bout de viande de mémoire. Après, j'ai pas tous les détails. Écoute, donc je veux pas.
Je demanderai à Vincent Manilev qui lui.
Voilà. Est Vincent Manilev, il saura nous dire lui.
Qu'est-ce que tu fais le 9 janvier?
Écoute, je pense que je me remets de ma période de fête probablement.
Eh bien, non, le 9 janvier, tu fêteras l'anniversaire de Michel Barnier. Et ça, c'est plus. Je t'ai dit, Michel Barnier, c'est notre fil rouge. Hein.
D'accord, ok.
Je pense qu'on a le podcast qui va choisir ça.
Soit.
Benji, t'as quelque chose à ajouter? Excuse-moi d'avoir été un peu long sur Kaizen, mais je trouvais que ça méritait. Et surtout,
non, mais ça
c'est
méritait.
Vraiment le talk about show. C'est genre vraiment.
C'est l'événement pop culture de la semaine, je pense.
Au moins du week-end, mais oui. Et surtout, le simple fait de dire ce que tu penses du truc te fait les mecs te tombent dessus, quoi.
Ah oui, Inotstag, il a une communauté assez compliquée. C'est ce que j'avais cru comprendre. Parce que l'histoire dont je te parlais, donc de la fille mexicaine, c'était à l'époque du alors je sais pas si on dit Z-Event ou Z-Event.
Je crois que c'est Z-Event.
Il y avait une youtubeuse dont le nom m'échappe, je suis désolé, mais dont la particularité était d'avoir été une fille qui avait donc critiqué ce truc-là, et elle s'était mangée toute la communauté d'Inotstag, alors que d'autres personnes, des hommes qui avaient fait la même critique, eux, n'avaient rien eu du tout. Donc, je me souviens, sa communauté a l'air compliquée, en fait.
Ouais, et surtout, en plus, elle est massive. C'est-à-dire, il y a des millions de gens, donc dans des millions de gens, il y a forcément à boire et à manger.
Ah bah, si t'as juste 1% de connards sur une communauté d'un million, ça fait quand même beaucoup de connards.
C'est clair.
Bref, écoute, moi, je vais te parler du phénomène pop culture du moment, puisque j'ai terminé Kingdom Hearts. Le premier, dans sa version Final Mix 1.5, je sais même plus comment on l'appelle, tellement ce truc a eu de noms et de ressorties. J'ai détesté, j'ai passé un extrêmement mauvais moment sur le premier Kingdom Hearts. Et je me suis uniquement accroché parce que tout le monde me dit « Non, mais le 2 est bien, le 2 est bien, faut faire le 2. » Et tu me connais, impossible de faire le 2 sans faire le 1 d'abord. Donc, et puis surtout que je l'ai dans la compile, donc je l'ai fait, quoi. Donc voilà, moi je me suis approché de Kingdom Hearts de manière plutôt positive. Je me disais, attends, un RPG avec Donald.
Donald, perso jouable.
Voilà, alors non, pas jouable, mais qui t'accompagne, quoi. Il est avec
oui,
toi.
Oui, enfin, mais il est jouable, il est dans ta team. Ton équipe.
Voilà, c'est un membre de ton équipe, il est dans ta team, c'est ton magicien, ton wheeler. Je me dis, ah, qu'est-ce qui peut mal se passer? Il y a Donald, il y a des passages doublés où tu peux entendre sa voix, ou même pendant le jeu, parfois, tu l'entends appeler ton nom quand t'es en train de te faire rooster ou des trucs comme ça. Et puis, il y a Dingo, bon, voilà, j'aime bien Dingo aussi, même si c'est pas Donald, mais voilà, à la base, je savais que j'allais quasiment pas voir Mickey, donc je suis parti confiant, positif, en me disant, allez, ça, c'est quand même un jeu qui est fait par des gens qui savent faire des RPG. Comment ça peut mal se passer? Et oh là là, quelle a été ma surprise! Bon sang, qu'est-ce que c'était chiant! Oh mais quel enfer! Et alors, je suis pas encore dans le bordel de l'histoire incompréhensible. Le premier, ça va. Le premier, ça reste globalement compréhensible, plus ou moins. Bon, ça commence à partir un peu en sucette avec ces histoires de trous de serrure, de méchants que tu comprends pas trop bien pourquoi ils viennent de cet endroit de l'obscurité, pourquoi à la toute fin du jeu, Mickey était déjà là, comment il est arrivé là, qu'est-ce qu'il foutait là, tu sais pas trop. Le jeu se termine en plus de manière, ça se termine en queue de poisson complète, c'est pas vraiment une fin, quoi. Tu te dis, bon, ok, j'ai fait un peu tout ça pour rien, c'était un petit peu abusé. Mais le problème, c'est tout le reste, en fait. C'est que, globalement, c'est quasiment aussi peu jouable qu'un Seiken Densetsu. Et, je veux dire, même les Seiken Densetsu sont plus jouables que ça, en fait. T'as l'impression de taper dans le vide. Y a des moments où tu te fais rooster, tu comprends pas pourquoi. Il y a plusieurs boss où t'es obligé de cheese, en fait, pour que ça se passe bien. Sinon, c'est un enfer absolu. Et puis... c'est bourré d'aller-retour, sachant que la seule boutique de tout le jeu, enfin, t'as une unique boutique dans un royaume où t'es obligé de faire des allers-retours pour y retourner. Bon, les passages en gummy ship. Alors, pour les gens qui n'ont pas joué à Kingdom Hearts, il faut que j'explique. Donc, en gros, Kingdom Hearts est séparé en différents royaumes qui sont des petites planètes et chaque royaume a un thème particulier, la plupart du temps autour d'une production Disney. Donc, on va avoir le royaume Alice au Pays des Merveilles, le royaume Aladdin. Le royaume l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'en passe et des meilleurs, et il y a un royaume au tout début qui est Traverse Town, qui est donc une ville imaginaire dans laquelle on a l'unique boutique d'équipement et l'unique boutique d'items de tout le jeu. Ça veut dire que quand vous avez besoin de refaire le plein, il faut retourner au premier royaume, Et avant d'obtenir un objet qui vous permet de voyager, de faire du fast travel, de voyager instantanément, vous êtes obligé de vous taper des séquences qui s'appellent le Gummy Ship. Et le Gummy Ship, c'est une sorte de shooter en vue de derrière à la Star Fox ou à la Space Harrier, si vous êtes encore plus vieux. Et c'est pas intéressant, peu jouable, maxi chiant. C'est d'une mollesse absolue et bon sang, qu'est-ce que c'est horrible. Et a priori, ça existe encore dans les épisodes suivants, donc j'ai très 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 peur. Donc voilà, j'ai passé un excessivement mauvais moment. Alors, sans parler de passage où la difficulté d'un seul coup, c'est un mur. Il n'y a pas de progression. Il y a notamment un boss qui est abominable. C'est ce mur horrible. Sachant qu'en plus, les trois boss derrière, tu vas leur rouler dessus parce qu'ils sont super faciles ou super faciles à cheeser. Donc non, vraiment, j'ai détesté. J'ai détesté, c'était un enfer. Et je suis un peu interloqué. Je veux bien comprendre qu'à l'époque les beaux graphismes, le côté Disney mélangé à Final Fantasy a pu faire illusion, mais comment ce jeu a pu avoir d'aussi bonnes notes à l'époque, quoi? Ça me dépasse complètement. Parce que c'est pas juste une histoire de mal vieillir. Enfin, des vieux RPG, j'en fais plein. Là, celui-là, il est vraiment mais infernal à jouer, quoi. Vraiment, j'ai passé un supra mauvais moment. Donc Daniel, est-ce que tu sais, est-ce que tu peux me m'aiguiller, me donner une explication à comment ce jeu a pu être a pu avoir autant de succès, en fait?
Bah d'abord, il y avait une vraie dynamique quand le 1 est sorti. Genre, c'était quand même les personnages de Square et les personnages de Disney.
Ouais, ça, je l'entends.
Il n'y avait pas une grande concurrence à l'époque. Et il y avait une vraie dynamique de... Comment il s'appelle? De Nomura, en fait. C'est vraiment le début de la nomurisation de Square Enix. Et, ouais. Et on lui a donné carte blanche pour faire son jeu. Et il en a fait un peu son univers. Au début, il réalisait pas les... Je crois pas qu'il réalisait le premier Kingdom Hearts, en tout cas.
Si, c'est lui.
Ah, hein. C'est lui, c'est Nomura. Je pensais qu'il est le premier, il lui avait pas encore laissé les rênes. Mais du coup, oui, c'est, je peux comprendre que ça ait fonctionné à balle au début. Mm. Et alors, par contre, Kingdom Hearts 2, qui est peut-être celui qui m'a... C'est à la fois le pire et en même temps le meilleur. C'est très particulier.
C'est pas rassurant.
Non, mais c'est vraiment très particulier parce que c'est à la fois un bien meilleur jeu en tout point.
Ouais.
Ça, je peux t'assurer, vraiment en tout point, il est meilleur. Mais par contre, tu vois aussi ce qui va se passer dans la série. Tu vois, ça part.
C'est le moment où ça part en latte.
Ah ouais, ça part. Ouais. Ça part en cacahuète, ouais.
Ouais. Alors, sur le premier Kingdom Hearts, c'était Nomura et Hashimoto, ils étaient deux. Et sur le deuxième, c'est Nomura tout seul, c'est ça?
En général, il lui colle un mec avec lui parce que, voilà, est-ce qu'il est fiable, quoi, tu vois, en général. Ouais. Donc, on lui colle toujours un co-réalisateur. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé sur FF7 Remake, il y a trois réalisateurs.
Ouais.
Et après, les scénarios, je sais pas si t'as déjà écouté le Cozy Corner où Moguri a essayé d'expliquer.
Alors, pas encore, parce que je voulais éviter de me spoiler trop.
Ah non, mais c'est pas possible que tu
spoiles. Je pense que je vais finir par écouter ça au final.
Parce que quand t'entends ce truc, ça ne fait aucun sens. Et genre, tu pourras pas t'en souvenir. C'est humainement pas possible de s'en souvenir. Et c'est vraiment je pense que c'est un des meilleurs moments du cosmos de l'univers, même, je dirais.
Mais parce que le premier, l'histoire est encore compréhensible. Alors, elle est cuculapraline comme pas permis.
Mais c'est ce que t'attends peut-être d'un truc Disney, tu vois.
Ouais. Mais c'est, voilà, je reproche pas au jeu d'avoir une histoire simpliste et cuculapraline. Mais honnêtement, quand t'arrives à la fin, tu te rends compte que tout ce que t'as fait, ça n'a servi à rien, quoi. Et ça, c'est vraiment c'est un peu abusé quand tu sais que tu viens de te taper 50 heures de jeu avec des passages vraiment relous. Et honnêtement, à peine jouable, quoi. Vraiment, tous les passages dans Hack and Slash, les combats et tout, c'était...
Est-ce que tu vas faire le 2?
Alors, je me suis imposé le 1 pour pouvoir faire le 2, parce que tout le monde me dit le 2 est tellement mieux, mais je vais pas le faire tout de suite, hein. Je vais me laisser quelques années, je pense.
Ouais, je pense, oui. Tu as d'autres choses à faire, comme par exemple refaire toute la tuyauterie chez toi, tu vois.
C'est... par exemple, terminer les salles de bain. Non, mais j'ai d'autres choses à faire. Mais j'ai d'autres jeux à faire aussi avant, donc tu vois... Je vais faillir à ma grande tradition de faire les jeux avec 5 ans de retard. Là, le Zelda qui arrive, le Echoes of Wisdom, je pense que je vais le prendre Day One.
Ah, et puis aussi, Echoes of Wisdom, mais surtout, tu m'as dit que ce que tu prends Day One, c'est la PS5 Pro.
Alors, non, je n'ai pas spécialement l'intention de prendre la PS5 Pro.
Tu sais quoi? Même les gens que j'aurais pensé acheter une PS5 Pro, ils rigolent quand je dis « Alors, tu prends la PS5 Pro ?» Ils rigolent.
Mais tu sais que les préventes sont toutes partes. Enfin, je sais pas combien ils en ont vendu en prévente, mais ça va se vendre, quoi. C'est ça qui est.
Oui, ça va se vendre un premier temps, mais tu sais, ça va se tasser, hein, tu sais.
J'ai vu la vidéo comparative qui est censée montrer en quoi la PS5 Pro est mieux. Et je t'avoue qu'il y a plein d'endroits où je vois pas du tout la différence, quoi.
Moi, je vois pas la diff. Je vois pas la diff. Et moi, si c'est juste, surtout quand le mec il fait it's crispier, et je vois pas du tout plus.
Oui, voilà, ouais.
Je sais pas plus du tout pas crispy, c'est pas snap crack pop. C'est...
Ça doit être la compression YouTube doit pas aider. Hein. Peut-être que si tu me les mettais sur deux télé côte à côte, je verrais la différence. Mais moi, je me disais si ça t'assurait 60 fps avec le ray tracing. Oui, effectivement, la différence entre 30 et 60 FPS, je la vois. Pour le coup, là, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à la voir. Moi, je la vois vraiment.
Dont moi.
Ouais, toi, tu vois pas trop la différence 30-60?
Non, moi, il faut que ce soit écran contre écran pour que je vois la différence.
Ouais, moi, je la vois vraiment. Pour le coup, j'ai pas de souci là-dessus. Donc, à la limite, ça pourrait valoir le coup. Mais 700 balles, quoi. Enfin, je vais pas mettre 700 balles, sachant qu'il y a déjà trop peu de jeux qui utilisent vraiment la PS5 à l'heure actuelle. Donc, non, ça n'a aucun sens.
Mais surtout, peu de jeux inédits, enfin, plutôt exclusifs. Mm. Et je tiens à te dire, alors ça, c'est un mec, c'est un ami commun, comme on dit, chez dans Soumiassène, qui m'a dit, en plus, tu sais que le CD...
CD il a audio, part, oui.
Il est externe.
Le lecteur est externe, le support est externe.
Et il a besoin d'être activé par en ligne.
Pourquoi ? Ça n'a aucun
sens. Je ne sais pas, il y a une protection. Et semble-t-il, tu ne peux pas mettre le CD externe d'une console d'une autre région.
Ah bah, non, aucun sens. Bah bon. Après, ouais. C'est pour éviter que les gens achètent moins cher ailleurs, j'imagine.
Non, je pense que c'est histoire de localiser.
Ah oui, c'est pour zoner les Blu-ray. C'est pour zoner les Blu-ray.
De zonage de Blu-ray.
Oui, voilà, c'est
les Blu-ray vidéo.
C'est qu'ils doivent construire le même dans toutes les régions et le soft lock ensuite pour les Blu-ray, ouais.
Ouais.
Ça doit être ça. Oui, bah écoute, oui, c'est vrai que moi j'ai une PS5 avec lecteur optique parce que bah, je voulais jouer à mes jeux PS4, quoi. J'ai des jeux PS4.
Ah oui, moi, par essence, je suis obligé de prendre la version maxi pour. C'est mon métier aussi, c'est de jouer aux jeux vidéo. Je ne pourrais pas mentionner les jeux que j'ai pas mal de jeux que je reçois là, avec NDA, dont je peux pas parler, mais dont je parlerai dans un prochain épisode.
D'accord.
Benji, je pense que c'est le moment de sortir ta reco, si t'as une reco.
Ah bah oui, j'ai une reco et c'est une reco jeux vidéo. Donc voilà, dans la continuité. Alors, ce n'est pas Kingdom Hearts, hein, la surprise d'absolument personne. Non, c'est un petit jeu indé qui se termine en 3-4 heures. Donc vraiment, c'est le petit jeu casse-croûte qui fait plaisir et qui prend pas trop la tête. Et ça s'appelle Thank Goodness You're Here. C'est développé par un petit studio britannique qui s'appelle Callsupper et c'est publié par Panic. Panic, c'est les gens qui avaient développé Untitled Goose Game, dont Thank Goodness You're Here se rapproche beaucoup et peut être comparé. Panic, c'est aussi les gens qui font la Playdate, la petite console à manivelle. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
Ça me dit quelque chose, oui.
Et donc Thank Goodness You're Here, c'est un tout petit jeu d'aventure qui est hilarant. C'est un jeu d'aventure avec un humour absurde. Alors, si vous connaissiez Untitled Goose Game, ça s'en rapproche, mais en fait, c'est encore plus absurde, ça va encore plus loin. C'est un petit jeu dans lequel on incarne un petit représentant de commerce, mais vraiment minuscule, et qui est envoyé par son employeur dans une ville fictive du nord de l'Angleterre qui s'appelle Barnsworth, pour rencontrer le maire de la ville. Et quand tu arrives dans la petite ville, la réceptionniste du maire t'explique que le maire est dans un meeting, qu'il va lui falloir quelques heures, et donc il faut que t'attendes. Alors tu peux attendre, et sache que tu peux finir le jeu en attendant juste 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, le meeting du maire se termine un peu plus tôt que prévu, et tu peux rencontrer le maire, et hop, le jeu est terminé.
Ouais.
Donc c'est ce qu'on appelle une fin à la Far Cry, mais non, le jeu t'invite évidemment quand on te dit qu'il faut t'attendre à sortir, et là tu te balades dans la ville et en fait tu rencontres les habitants de la ville et tu vas aider les habitants dans les petits problèmes qu'ils rencontrent, et c'est des petits problèmes qui au fur et à mesure que le jeu avance deviennent de plus en plus absurdes, de plus en plus surréalistes. Et c'est très drôle parce qu'en fait, ton petit personnage, tu peux faire deux choses. Tu peux sauter et mettre des claques. C'est les deux seuls trucs que ton petit personnage peut faire. Et tu peux mettre des claques aux gens, tu peux mettre des claques dans le décor. Mais donc voilà, et c'est vraiment très, très, très drôle. Il y a un mode qui s'appelle le mode patois. Alors, on ne comprend absolument rien à ce que les gens disent en mode patois, mais tu peux les mettre en anglais, et là, ils ont un accent du nord de l'Angleterre qui est absolument délicieux. Je sais qu'il y a une traduction française, je ne sais pas si le jeu est entièrement doublé en français, mais je sais qu'il y a une traduction française. Et ça coûte trois fois rien, ça coûte 15 balles. Comme je l'ai dit, c'est fini en 3-4 heures. Et c'est disponible sur Windows, Mac, Switch, PS4, PS5. Je l'ai fait sur Switch, dans mon lit, c'était vraiment la configuration idéale. Et ouais, non, c'est chaudement recommandé, c'est vraiment, vraiment super drôle. Et même si vous n'avez pas forcément accroché à une Turtle Goose Game, que c'était un peu trop abstrait pour you, pour vous.
Elle est bonne, celle-là.
Parce que je relis le titre du jeu en même temps, je pense que Thank Goodness You're Here peut quand même vous surprendre. Si vous aimez l'humour vraiment absurde, genre les Monty Python, tout ça, c'est vraiment dans cette veine-là. Et ouais, c'est vraiment, vraiment drôle. Donc voilà, c'est ma reco, un immense coup de cœur pour Thank Goodness You're Here.
Ok, bah écoute, pour ma part, je recommanderais un petit documentaire d'un gars qui gravit une montagne. Non, je déconne. non, écoute, j'aurais pu recommander Astrobot comme tout le monde, mais en même temps, je vais peut-être me dire.
J'ai pas encore joué, mais je t'avoue qu'il me fait très très envie, mais dans le même temps, j'y jouerai dans 5 ans.
T'as déjà joué à Astrobot Playroom ou pas?
J'ai joué à Astro's Playroom quand j'ai acheté la PS5 en fait.
Bon bah écoute, c'est un peu le meilleur jeu de plateforme de la PS5. Hein.
C'était vachement bien, ouais.
Mais là, le nouveau est vraiment extraordinaire. Donc vraiment, je te recommande vraiment, vraiment chaudement.
D'accord.
Et en plus, j'ai joué avec mon fils, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Déjà soumis ma scène, je pense que je vais... Et je suis en train d'écrire un truc dessus, d'ailleurs, aussi.
D'accord.
Moi, pour ma part, je voudrais recommander quelque chose, un documentaire. Oui, mais pas rien à voir avec ce qu'on a mentionné plus tôt.
Ouais.
C'est un documentaire qui est disponible sur arte.tv. Et donc, j'imagine que peut-être toi, tu aurais accès. C'est un documentaire qui s'appelle DJ Mehdi, Made in France. Et c'est 6 épisodes entièrement consacrés à DJ Mehdi.
Ok.
Et c'est passionnant, c'est vraiment le moment d'une époque parce que tu vois passer les témoins de DJ Mehdi, que ça soit l'époque Ideal J, Kerry James, le 113 et tous les autres les tenants du rap de l'époque, mais aussi tu vois il y a même si cela mais aussi tu vois passer l'électro, puisque il avait pris le tournant l'électro au bon moment, et surtout il était passionné par musique, il expérimentait beaucoup, donc tu vois aussi Pedro Winter, tu vois aussi vraiment toute la clé, tu vois le dernier membre de Cassius qui reste malheureusement aussi.
Ouais.
Mais écoute, c'est passionnant, c'est plein d'émotions, parce que tu sens que c'est un mec vraiment cool qu'on a perdu. Moi, c'est vraiment une mort qui m'a assez bouleversé. Et comme tu sais peut-être, DJ Mehdi accompagne Super Ciné Battle, puisqu'il fait le générique de fin de... un des génériques de fin de Super Ciné Battle, c'est un son de DJ Mehdi. Et voilà, je recommande très chaudement ce documentaire. Et c'est... Voilà. Ça m'a beaucoup touché. Et je suis en train de le terminer, mais voilà, c'était passionnant. C'est tout ce que je peux te dire, et je te recommande, j'espère que tu peux le regarder sans avoir recours aux cassettes de ton cousin en France.
Au VHS de mon cousin français. C'est disponible où en France, tu l'as dit ?
Sur arte.tv, sur le site internet. Ouais. C'est tout pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Donc c'était After Eight épisode 178. Il est disponible sur le site internet aftereight.fr. Et sur toutes vos applis dédiées, merci à tous ceux qui nous soutiennent sur patreon.com/RPU. Encore une fois, je l'ai dit à la fin.
Oui, mais...
Un jour, je me motiverai pour le dire au début, mais en général, bon, bah... Et tu sais quoi, c'est très déprimant. J'ai pas ça, mais je suis en train de penser à TikTok. Pourquoi ? C'est parce que sur YouTube, sur ce Mimacène, on voit la courbe des gens qui restent jusqu'au bout. On a vraiment beaucoup de gens qui restent. Sur TikTok, les gens qui restent sur ton truc, c'est en quelques secondes. C'est vraiment du tac au tac, ils se barrent. Genre, il y a très peu de gens qui passent du temps à regarder ce que tu fais.
Mm-hmm.
Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Et en fait, je suis assez content quand les gens nous soutiennent sur Patreon, parce que ça veut dire en général qu'ils ont entendu jusqu'à la fin du podcast et qu'ils ont attendu après les recos, puisque c'est ce moment-là où on le rappelle. Et puis je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et on se dit à dans 2 semaines, Benji, si tu le veux bien.
Oui, dans 2 semaines, c'est peut-être possible.
C'est peut-être possible. C'est peut-être. Je sais pas si j'ai enregistré un petit segment avec Pouillot, ça pourrait être rigolo.
Ça pourrait, écoute. Moi, je voyage, tu voyages, on aura des choses à raconter.
Exactement. on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Ciao, ciao.
Parce que Baptiste va pouvoir mettre en bonus.
Ouais, je sais pas trop non plus.
Je sais pas trop non plus, mais écoute... Attends, je fais une imitation qu'Amandine trouve réussie.
Vas-y, je t'écoute.
Bonjour, pardon, c'est pour les hommes femmes, pardon, pardon.
Alors, je l'ai pas, tu sais qu'au début, j'ai cru que c'était Sarkozy. Hein.
Non, c'est Zinedine Zidane.
Ok, ok, d'accord.
Pardon pour les hommes femmes.
Bah écoute, je désolé, je l'avais pas.
Elle est bien, non?
Ouais, ouais, ouais. Elle est formidable.
Non, incroyable. Bah, tu tiens un truc.
Elle est extraordinaire. C'est un, voilà. On le fera, ce spécial imitation, un jour.
Une production RPU.